Chapitre 11. Le chapitre 11 des actes vus sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 11 des actes n'est pas une simple explication ou un rapport sur l'événement de Corneille. Ce chapitre est comme un document officiel où Dieu lui-même confirme le jugement devant toute l'Église que les païens sont également sauvés par le même évangile de l'eau et de l'esprit. Il montre clairement que l'Église n'est pas un lieu qui prend l'expérience humaine ou la tradition comme norme, mais une communauté qui reconnaît et suit l'ordre du salut déjà accompli par Dieu. Actes, chapitre 11, versets 1 à 3, le soulèvement du problème, le conflit entre les règles de purification et la norme de l'expiation. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent ce que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ». Les versets 1 à 3 du chapitre 11 des Actes traitent de la dispute qui a éclaté lorsque les apôtres et les frères de Judée ont appris que les païens avaient également reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre est monté à Jérusalem, les fidèles circoncis le critiquent et soulèvent un problème en disant « Tu es entré chez des incirconcis ». Et tu as mangé avec eux. Extérieurement, cela ressemble à une protestation contre la violation de la tradition et des règles des Juifs, mais en réalité, il s'agissait d'une collision essentielle de l'Évangile demandant s'il fallait placer la norme de l'élimination du péché sur les actes humains et la tradition nationale ou sur l'expiation déjà accomplie par Christ. Actes, chapitre 11, versets 4 à 14, l'explication de Pierre. L'ordre de l'événement du salut au-delà de l'expérience humaine. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Joppé, et pendant que je priais, je tombais en extase, et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Pierre leur explique cette affaire de manière suivie sans faire appel aux émotions. Il expose en détail la vision de la déclaration de pureté qu'il a eue en priant dans la ville de Joppé, l'événement où le Saint-Esprit lui a ordonné de partir avec eux sans hésiter, et la parole que Corneille a entendue par l'ange. En particulier, le passage où l'ange qui est devenu à Corneille a dit « Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison ?» souligne que le salut n'est pas un phénomène mystique, mais un événement objectif qui ne se produit que lorsqu'on entend et croit la parole proclamée. Actes, chapitre 11, versets 15 à 17, la norme décisive, la confirmation du même Saint-Esprit donné par Dieu. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Le cœur de la déclaration de Pierre est le témoignage. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Il dit s'être souvenu de la parole que le Seigneur avait dite, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et demande en retour, Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Cela montre que le Saint-Esprit n'a pas attendu l'imposition des mains de l'apôtre ni l'approbation de l'Église, mais a confirmé le jugement de Dieu en descendant directement sur ceux qui croient en la parole de salut déjà accomplie. Actes, chapitre 11, verset 18. La conclusion de l'Église, la repentance pour la vie, accordée aussi aux païens. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ». Ceux qui ont entendu l'explication de Pierre se calment et glorifient Dieu, concluant en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ». Ici, la repentance n'est pas un simple acte de larmes, mais une grande transition de pensée, rejetant le stéréotype selon lequel les païens ne pourraient jamais être sauvés, et reconnaissant que leurs péchés ont également déjà pris fin par le baptême et la croix de Jésus. L'Église de Jérusalem accepte finalement officiellement l'ordre du salut de Dieu qui opère au-delà des frontières de l'homme. Actes chapitre 11, versets 19 à 21. Le ministère à Antioche, l'Évangile à l'œuvre sur le champ de mission. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ceux qui avaient été dispersés en raison de la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Mais certains d'entre eux arrivèrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux Grecs, prêchant le Seigneur Jésus. Cet évangile n'était pas distinct pour les Juifs ou pour les païens, mais c'était le même évangile de l'eau et de l'esprit. Comme la main du Seigneur était avec eux, l'histoire d'une grande multitude de personnes croyant et se tournant vers le Seigneur est apparue, ce qui prouve le fait que l'Évangile est plus rapide que le contrôle institutionnel et que le Saint-Esprit préside directement à l'histoire de la vie sur le terrain. Actes chapitre 11, versets 22 à 26, l'Église d'Antioche et la naissance des missions mondiales. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent de Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. L'Église de Jérusalem dépêche Barnabas à Antioche. En y arrivant, Barnabas voit la grâce de Dieu, s'en réjouit et exhorte tout le monde à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Ce que Barnabas a confirmé n'était pas si les règles étaient respectées, mais l'évidence de la grâce où l'élimination du péché était achevée. Par la suite, Barnabas a amené Saul de Tarse et ils ont enseigné ensemble dans l'église d'Antioche pendant un an et les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Le titre de chrétien ne désigne pas une secte spécifique mais signifie l'identité d'être une nouvelle création appartenant au ministère accompli de Christ. Actes, chapitre 11, versets 27 à 30, la pratique du secours, le fruit spontané découlant de l'assurance de la grâce du salut. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitèrent la Judée. Ils le firent de parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. En entendant la prophétie selon laquelle une grande famine surviendrait sur toute la terre, les disciples de l'église d'Antioche résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ce secours n'était pas une obligation légale ou une stratégie de survie de la communauté, mais un fruit spontané et vital partagé par ceux qui avaient déjà été libérés du péché et de la malédiction. L'Église d'Antioche a montré de manière pratique que la grâce, résultant de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ne produit pas de condamnation, mais produit un amour véritable et un sens des responsabilités envers les frères. En conclusion, le chapitre 11 des Actes confirme que le salut des païens n'était pas une exception accidentelle, mais le plan originel de Dieu. La seule norme de l'Église n'est pas l'expérience humaine ou la tradition, mais l'ordre de l'Évangile. Et le Saint-Esprit descend sur celui qui croit en la parole et garantit ce salut. L'Église n'est pas un organe de pouvoir qui gère l'œuvre de Dieu, mais une communauté qui reconnaît l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est l'œuvre que Dieu a déjà accomplie et qui en témoigne au monde entier. Telle est la structure d'expansion historique de l'Évangile que montre le chapitre 11 des Actes. Un sermon de Paul C. Jong. La parole du chapitre 11 des Actes, des versets 1 à 30, est un chapitre qui consigne une explication et une vérification approfondie de l'événement du salut des païens. Ce texte ne montre pas le processus de création d'un nouvel évangile, mais montre comment l'évangile de l'eau et de l'esprit, déjà accompli, est confirmé et universellement accepté au sein de la communauté de l'Église. En regardant le chapitre 11 des Actes du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul C. Jong, on peut voir que ce chapitre n'est pas un lieu qui justifie une simple expérience émotionnelle, mais un chapitre qui établit clairement quelle est la norme absolue du salut et de l'évangile. Lorsque les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu, les fidèles circoncis critiquèrent Pierre et soulevèrent un problème, en disant qu'il était entré dans la maison d'hommes incirconcis et qu'il avait mangé avec eux. Extérieurement, il semble que les règles de la loi et de la nourriture aient été violées. Mais le véritable problème central résidait dans ce que les païens en étaient devenus à croire. Le chapitre 11 des Actes commence la discussion en révélant que la norme du salut n'est pas la tradition humaine ou les œuvres de la loi, mais uniquement l'œuvre que Dieu a accomplie par Christ. Pierre a expliqué cette affaire de manière suivie et a témoigné de la façon dont Dieu a agi souverainement. Le passage où Pierre a confessé « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, au commencement. » Lorsqu'il a prêché l'Évangile dans la maison de Corneille, est très important. Cela confirme que le Saint-Esprit n'est pas venu pour commencer un nouveau salut, mais qu'il est celui qui est venu sceller que le salut déjà accompli est vrai pendant que le ministère de Jésus-Christ est proclamé et que cet évangile est entendu. Le Saint-Esprit agit toujours comme un témoin qui garantit la véracité de l'évangile accompli par l'eau et le sang. La déclaration que Pierre a citée disant « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé » signifie que, allant au-delà de la simple abolition des règles alimentaires, la norme de la pureté a été déplacée de l'effort humain vers le ministère de Dieu. La pureté n'est plus un processus, mais un fait accompli que Jésus-Christ a déjà réalisé en prenant en charge les péchés du monde au fleuve Jourdain et en recevant le jugement de ses péchés sur la croix. Pierre a souligné que les stéréotypes humains doivent être abandonnés devant le ministère accompli de Dieu en disant « Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» L'Église de Jérusalem, ayant entendu l'explication de Pierre, se calma et glorifia Dieu et conclut en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ici, la repentance pour la vie n'est pas de simples larmes ou une décision éthique, mais une transition de la direction de la foi qui rejette sa propre justice et ne s'appuie que sur le salut accompli par Dieu. L'Église n'a pas confirmé l'intensité des actes ou des expériences des païens, mais a reconnu l'œuvre de Dieu en confirmant seulement si le même évangile avait été prêché et si le même Saint-Esprit avait témoigné de cet évangile. Par la suite, ceux qui avaient été dispersés en raison de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne voyagèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche et prêchèrent l'Évangile. Et en arrivant à Antioche, ils prêchèrent aussi le Seigneur Jésus aux Grecs, de sorte que la main du Seigneur était avec eux et une grande multitude de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Lorsque l'Église de Jérusalem envoya Barnabas jusqu'à Antioche pour confirmer la grâce de Dieu, et que Barnabas chercha Saul, l'amena à Antioche et qu'ils s'assemblèrent pendant un an et enseignèrent une grande multitude. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le nom de chrétien n'est pas un simple titre moral, mais une déclaration évangélique selon laquelle ils sont ceux qui croient au ministère de salut de Christ et se tiennent sur cette identité. La fin du chapitre 11 des Actes s'achève sur l'apparition des disciples de l'église d'Antioche résolvant d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée lorsqu'une grande famine survint sur toute la terre. Ce secours et ce service ne sont pas une obligation issue d'un commandement légal, mais un fruit spontané de la joie savourée au sein de l'Évangile par les saints dont le problème du péché a été résolu. La communauté qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit partage avec amour sans calculer et manifeste naturellement le service dans la vie comme un résultat du salut et non comme une condition du salut. Les normes de jugement de l'Église doivent être l'Évangile et non la tradition. La preuve évidente du salut n'est pas les actes, mais la même œuvre du Saint-Esprit. Et le fondement de la pureté n'est pas le zèle de l'homme, mais le ministère accompli de Jésus-Christ. Lorsque cet évangile est clair, à savoir que Jésus a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain et a reçu le jugement de ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit témoigne de ce fait dans le cœur de ceux qui croient, l'Église abat enfin toutes les frontières et voit la gloire de Dieu. Questions et réponses sur le chapitre 11 des Actes. Première. L'Église de Dieu doit-elle se concentrer sur le ministère des missions pour la propagation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit? Si l'Église de Dieu est une communauté qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sa raison d'être réside ultimement dans la préservation et la prédication de cet Évangile. Jésus a ordonné aux disciples de faire des nations des disciples et leur a dit d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Par conséquent, le fait pour l'Église de s'intéresser au ministère des missions n'est pas une question facultative, mais une question liée à son essence. La mission ne signifie pas simplement l'activité de partir à l'étranger. Tous les ministères qui prêchent à ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile sont des missions. Prêcher l'Évangile aux personnes de la communauté locale, dans des sphères culturelles différentes ou dans des contextes religieux différents, tout cela entre dans la catégorie des missions. S'il s'agit d'une Église qui place l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au centre, cet Évangile ne doit pas rester dans un seul endroit. Cependant, cela ne signifie pas que la mission soit la seule activité de l'Église. L'Église doit aussi porter ensemble l'œuvre d'édifier les saints avec la parole, de prendre soin les uns des autres et de les nourrir pour qu'ils se tiennent fermement sur l'Évangile. Si elle ne poursuit qu'une expansion externe dans un état où l'intérieur est faible, elle peut perdre l'équilibre. Par conséquent, la mission est l'une des missions essentielles de l'Église, mais elle ne peut être séparée de l'enseignement de la parole et des soins de la communauté. De plus, la mission ne doit pas être une simple expansion organisationnelle, mais la transmission de l'Évangile. Rassembler des gens n'est pas le but, mais faire connaître la vérité de l'élimination du péché est le but. Si la mission devient un moyen de compétition numérique ou d'expansion d'influence, le centre peut devenir flou. En conclusion, c'est la direction biblique pour l'Église de Dieu de se concentrer sur le ministère des missions pour la propagation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, cette concentration doit s'accomplir tout en maintenant la centralité de l'Évangile et la profondeur de la parole. L'Église est une communauté qui préserve l'Évangile et en même temps, une communauté qui répand cet Évangile dans le monde. La mission n'est pas une activité supplémentaire facultative, mais une mission liée à la raison d'être de l'Église. Deuxième, est-il juste pour l'Église de Dieu de mener des entreprises qui agissent comme un calice, des entreprises de soutien afin de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit? La question de savoir si c'est la volonté de Dieu pour l'Église de Dieu de mener ce que l'on appelle des « entreprises qui agissent comme un calice », c'est-à-dire des activités auxiliaires pour aider à la propagation de l'Évangile afin de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, est une question de priorité et de centre. La Bible place clairement la mission essentielle de l'Église sur la propagation de l'Évangile. Par conséquent, toutes les activités peuvent avoir un sens lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'aide à ce centre. L'Église peut mener diverses formes d'entreprises telles que la gestion de bâtiments, l'édition, l'utilisation des médias, le soutien aux missions et l'aide à la vie des saints. Ces choses ne sont pas l'œuvre de prêcher directement l'Évangile, mais elles peuvent jouer un rôle en aidant l'Évangile à être transmis plus largement. Si ces activités soutiennent réellement la propagation de l'Évangile et aident les saints à se concentrer davantage sur l'Évangile, elles peuvent devenir un moyen de servir cet objectif. Cependant, ce qui devient un problème, c'est le cas où le moyen devient le but. Un calice existe pour faire ressortir la fleur et non pour remplacer la fleur. Si l'entreprise elle-même devient l'identité de l'Église et que l'Évangile ne reste que de manière formelle, le centre s'est déjà déplacé. La Bible enseigne à s'appuyer sur la puissance et la parole de Dieu plutôt que sur une attitude qui s'appuie sur la sagesse humaine ou la capacité organisationnelle. De plus, pour toutes les entreprises, le motif et la direction sont importants. Il faut discerner si c'est pour aider l'Évangile ou pour la stabilité financière ou l'expansion du pouvoir. Même si cela semble être pour l'Évangile à l'extérieur, si cela poursuit en réalité la gloire ou l'influence humaine, son but peut être déformé. Dieu regarde l'honnêteté du centre plutôt que le succès extérieur. En conclusion, ce n'est pas une mauvaise chose en soi pour l'Église de Dieu de mener des entreprises auxiliaires pour aider à la propagation de l'Évangile. Cependant, cela doit être un moyen pour l'Évangile au plus haut point, et cela ne peut pas précéder l'Évangile. La volonté de Dieu ne réside pas dans l'établissement du calice, mais dans le fait que l'Évangile, qui était la fleur, soit révélé clairement. Toutes les activités doivent être évaluées selon cette norme.